La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale.
Bonjour, M. Sinette.
Bonjour.
Ça va bien? On est dans le super lieu de Berceau du Canada, dans la maison Rossio Le Boutillier.
Maison ancestrale.
Pour notre rencontre aujourd'hui, où on va parler de la Deuxième Guerre mondiale, l'implication des Gaspésiens. Je sais que pour vous, même si vous étiez enfant, lors du débarquement de Normandie, il y avait, pour vous, ça fait longtemps que la guerre était active, parce qu'à Gaspé, vous avez vu les gens bouger, puis les gens, les soldats s'installer, toute la bataille du Saint-Laurent. Donc, ça faisait quand même déjà 2-3 ans qu'il y avait l'action militaire dans le Gaspé.
Ah oui, c'est sûr. Surtout depuis 1941. 41, mais là, c'est là qu'ils ont installé la première base navale, qui était sur la pointe O'Hara, dans des bâtiments des Robins. Mais c'est sûr que c'est là que l'influence de soldats est venue à Gaspé, les marins, l'aviateur aussi, à cause de, après ça, de la construction de la base navale de Sandy Beach. Alors, ça a emporté beaucoup de monde, c'est évident. Depuis 1941, en réalité. Puis même la guerre qui a débuté en septembre 1939, il y a beaucoup de Gaspésiens qui sont partis aussi pour la guerre. Surtout le premier contingent là, d'artillerie qui a quitté Gaspé ici. Ils sont enrôlés, je pense, 4 ou 5 jours après la guerre était déclarée. Ils étaient en 35-36 des autres. Les autres étaient les premiers qui ont quitté Gaspé en décembre 1939, là. J'avais un de mes cousins qui était dans ce régiment-là, qui s'est fait tuer en Italie, en 45, l'hiver 45. Alors, c'est sûr que j'étais familier avec la vie militaire, parce que chez nous, ça a été quand même pas mal dans une vie militaire aussi. J'avais 2 oncles qui ont fait la Première Guerre mondiale, et puis j'avais 3 cousins, et j'avais 2 frères aussi à la dernière guerre. Alors, on était chez nous quand même dans une atmosphère militaire. Là.
Est-ce que vous avez un souvenir clair de l'annonce du débarquement de Normandie? Puis qu'est-ce que, pour vous, pour la population ici à Gaspé, est-ce qu'on voyait enfin la fin de cette guerre-là qui durait depuis déjà 5 ans?
Oui, c'est en réalité, pour mettre fin à la guerre, il fallait qu'il y ait une grosse invasion. Il n'y a pas de doute, là, parce que c'était pas facile de chasser les Allemands sur le territoire en France. Ils étaient quand même très bien implantés là depuis 1940. Puis, ils étaient fortifiés. C'est sûr qu'il fallait une invasion quelque temps. Mais les autres aussi, les Allemands étaient conscients. Mais ils pensaient pas que l'invasion aurait eu lieu en Normandie. Les autres, ils pensaient que ça aurait été à Pas-de-Calais, parce que la distance entre l'Angleterre en traversant la Manche était beaucoup plus courte. Et ils savaient fortifier là plus fortement aussi à cause de ça. Mais finalement, ils sont fait jouer le tour. Le sacré avait été bien gardé. Alors, c'est en Normandie, le 6 juin 1944, qu'a lieu l'invasion de Normandie. Moi, je l'ai appris. Je crois que c'était à l'école le matin. Et puis, ma mère avait pris la radio qu'il y avait eu une invasion en France par les différentes... différentes troupes alliées. Alors, on se posait des questions parce que j'avais un de mes frères qui était quand même en Angleterre depuis début 1942. Fait qu'on était presque convaincus qu'il participait à cette invasion-là. C'est là que j'ai appris la première fois l'invasion de Normandie.
Et vous, c'est ça, vous parlez de votre frère Mathias.
Mathias, c'est ça, oui.
Qui, lui, était déjà stationné en Angleterre.
Oui.
Il va aller dans les troupes de renfort. Il va être quelques jours après le jeu de
l'année. C'est la deuxième vague pour libérer le camp. Parce que la bataille de Normandie n'a pas duré tellement longtemps. En réalité, ils sont rentrés un peu plus loin en France. Et puis les Allemands sont repliés avec presque toutes leurs armées dans le coin de Caen. Parce qu'il y avait un aéroport aussi à Cap-Piquette qui voulait protéger parce qu'il avait besoin de cet aéroport-là. Alors ils se sont repliés là. Et puis là, il fallait avoir une deuxième vague là, pour libérer Caen à ce moment-là. En réalité, mon frère n'a pas débarqué en Normandie tel quel. Il a débarqué à Pas-de-Calais. Parce qu'il avait pour mission de... Parce que les Allemands étaient repliés encore à Pas-de-Calais aussi. Là. Tout l'armement de défense qu'il avait au départ, qu'il croyait que l'invasion a eu lieu là, mais toute cette défense-là est encore installée. Les casernes qu'il y avait là, c'est que c'était quand même en béton armé... Alors, les autres, ils avaient eu Calais, c'est-à-dire, tant qu'ils ont débarqué à Calais, ils ont eu comme mission le régiment d'artillerie de démolir, de tirer sur ça, parce que les Allemands étaient quand même très bien installés à l'intérieur, les canons, mitrailleuses et tout ça. Alors, leur mission, ils autres, étaient ça en réalité. Et ils n'ont pas été capables de démolir le casemate qu'il y avait là, parce que c'était en béton armé. Mais par contre, les Allemands se sont rendus, ils sortaient de là, le sang leur coulait par les oreilles, et le nez par la détonation qui se faisait sur ces pillbox-là.
Alors, c'est que c'est les tirs d'artillerie qui frappaient le bâtiment,
ouais, c'est ça.
Créaient la vibration.
Ce qui venait là, qui ne pouvait plus résister à se défendre en dedans là. Ça fait qu'ils se sont rendus. Tout le groupe qu'il y avait dans ces... je crois que c'est encore là aujourd'hui, ces pillbox-là. Ils n'ont jamais démoli finalement. Mais c'est là qu'ils ont commencé. La première bataille pour eux autres, c'était vraiment de la mission de démolir ça. Et là, son régiment s'est dirigé, comme bien d'autres, là, vers Caen. D'abord, l'aéroport, il fallait détruire l'aéroport de Cap-Piquet, qui était primordial pour les Allemands. C'est sûr que sa première mission, qu'il y avait aussi plusieurs régiments, pas juste l'artillerie, l'infanterie aussi, là. C'est comme ça qu'ils sont... Il a participé à la bataille de Caen. Là. Mais il était quand même... Il s'avait enrôlé, mon frère, lui, en printemps 1941, dans les Royal Rifles au Canada, un régiment que personne ne connaissait. C'était un régiment en réalité qu'après, il avait été formé pour faire la garde à Hong Kong. Et puis, mes autres, ils savaient enrôler trois types de Gaspés, c'est deux autres avec mon frère. Ils avaient décidé de s'enrôler de l'armée un beau matin. Il y avait un officier recruteur qui était en ville pour ce régiment-là. Alors, ils se sont enrôlés dans le Royal Rifles. Et dans l'après-midi, mon père était cordonnier à l'époque, il avait sa boutique. Il y avait le major, à ce moment-là, il était capitaine, il est devenu major. Par après, George Sams de Gaspé, il était dans leur 82e régiment, il était officier. Là. Et il se trouvait être en passe à Gaspé parce qu'il était affilié quand même avec la réserve, parce que la réserve était affiliée avec le 82e régiment. Alors, il avait affaire cette semaine-là à son bureau. Puis, il a rencontré mon père, puis mon père, il a dit, Mathias s'est enrôlé. Il dit, un matin, dans un régiment, puis il dit, quel régiment que c'est ça? Il dit, c'est pas enrôlé dans l'artillerie, parce que le régiment de la réserve à Gaspé, c'était à l'artillerie. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de Gaspésiens qui étaient dans l'artillerie, par rapport à l'armée de réserve. Fait qu'il dit, je serai à sa place. Il dit, je m'enrôlerai pas dans ce régiment-là, parce qu'il dit, on a eu écho que c'est pas un régiment qui va participer vraiment à des batailles en Europe. Je crois que c'était plutôt pour faire la garde à Hong Kong, parce que les Britanniques avaient demandé ça, c'est une colonie britannique à l'époque. Lui, il était renseigné en étant un officier. Fait que, il dit, pourquoi qu'il vient pas? Il dit, cet après-midi, je vais être à mon bureau à l'armée de réserve. Puis, il dit, on peut organiser ça, canceller l'enrôlement, puis les enrôler tous les trois dans un régiment d'artillerie. Ça serait plus propice, je le pense, il dit, pour, comme Gaspésien aussi. Alors, c'est ça qui est arrivé. Fait que mon père lui a raconté l'histoire et ils sont allés tous les trois, puis ils ont rencontré le capitaine Sams, puis ils sont enrôlés dans un régiment d'artillerie. Mais c'est pas le régiment qui a toujours été, par exemple, parce qu'il n'a pas été dans le 82e. Finalement, ils ont envoyé les autres à ce moment-là, je pense que c'était à Valcartier. Ils ont été à Valcartier jusqu'en 42, printemps 42. Là, ils ont formé un régiment d'artillerie purement canadien-français, qui s'appelle le 4e artillerie Museum. Les autres, c'était des canons qui supportaient les chars d'assaut et ainsi que l'infanterie. Ils ont été un régiment à l'avant-garde. Alors, c'est dans ça que tous les trois, finalement, ont été transférés dans ce régiment-là. Et ils ont traversé en Angleterre dans la même année, en 42, au début de 42. Comme tous les autres régiments, et c'était l'entraînement. Hein. L'entraînement, surtout en Écosse. Ils faisaient beaucoup d'entraînement là-bas. Je ne sais pas si le territoire ressemblait peut-être plus à ce qu'il y avait en Europe, mais leur entraînement se faisait la plupart du temps en Écosse.
Est-ce que vous vous souvenez de quelle ville en Écosse qui était positionnée?
Je m'en souviens pas vraiment, non. Donc, c'est que j'ai ça ici dans un livre, parce qu'il y a un livre qui a été écrit par un officier de ce régiment-là, après la guerre, en 1945, sur son régiment, et il relate toutes les le cheminement et les batailles de ce régiment-là, le 4e Médium. Parce que 4e Médium, en réalité, en Angleterre, en Vendée, c'est sûr qu'il était conscient qu'il y a eu une invasion une journée à l'autre, au moins une semaine à l'autre, mais c'était toujours gardé secret. Puis il continuait à faire l'entraînement, les simulations d'invasion, et des compétitions aussi de tir au canon. Il y avait des concours qui tiraient le plus précis, le plus vite. Alors, il y avait une grosse entraînement, en réalité, avant l'invasion. Mieux que ceux-là, les pauvres de Royal Rifle, qui ont parti pour Hong Kong, puis ils n'étaient pas entraînés plus que ça, là. Ils n'étaient pas préparés pour la guerre, ils étaient préparés pour faire de la garde. Mais tandis que tous ces régiments-là canadiens qui étaient en Angleterre, c'était différent, ils se préparaient pour une invasion un jour ou l'autre, là. Alors, il y avait des Polonais aussi qu'après l'invasion de la Pologne, ils sont réfugiés en Angleterre. Et puis, ils ont formé un régiment, ce qui fait qu'il y avait un officier avec les autres qui a pris charge des autres, un colonel de l'armée polonaise. Et les autres, c'était les chars d'assaut, les tanks. Et puis, ils se sont affiliés à ce régiment-là, le 4e Médium. Alors, c'était le régiment, disons, le protecteur un peu lors des attaques. Toute la guerre en Europe, à partant de l'invasion jusqu'à la fin de la guerre, il est affilié avec ce régiment-là polonais.
C'est-à-dire que les Polonais avaient les blindés,
ouais.
Puis eux faisaient le support d'artillerie.
C'est ça. L'artillerie protégeait, disons, ces chars d'assaut-là. Là. Ils les suivaient, les autres, en action. Là. Tandis que les gros canons, bien souvent, ils restaient en arrière puis tiraient à distance. Hein. Mais les autres, le 4e Médium, c'est qu'ils suivaient les chars d'assaut des Polonais. Ils ont toujours resté ensemble.
Puis votre frère, lui, en tant qu'artilleur, parce qu'il y a une équipe quand ils font un canon, il n'y a pas juste une personne. D'habitude, il y a quelqu'un qui calcule le tir. Lui, c'est son occupation spécifique par rapport à ça?
Lui, il était 6 et 7, ça dépendait. Et au départ, il était entraîné pour 7 personnes. C'est sûr qu'avec le cheminement de la guerre, ben, ils sont diminués, ils étaient rendus à 6 à un moment donné, quelques mois après, là, parce qu'il y en a plusieurs qui sont fait tuer. Et lui, sa fonction était... Parce qu'il a la fonction de celui-là qu'on appelait... On appelait ça le die sight. C'était le point de repère, disons. Et ça, il y en avait un sur ça, qui lui est assis sur un siège. Et il y en avait un autre, lui, et c'est lui qui faisait, qui tirait. Soit avec... normalement, au début, l'entraînement se faisait souvent pour tirer à distance avec un cordon. C'est parce que je sais pas si tu as probablement remarqué des photos des militaires qui ont toujours ce cordon-là sur leur épaule, ce cordon blanc. Mais en réalité, ce cordon-là servait à tirer les canons à distance. Fait qu'en tirant sur ça, c'est sûr que là, c'était le tir. Puis il y en avait d'autres, tu avais un sergent. Il y avait toujours un sergent, chaque canon, qui donnait l'ordre, qui recevait les communications. Puis il y avait ceux-là qui transportaient les obus, qui faisaient entre 6 et 7 personnes. Là. Mais lui, son rôle était de tirer là, sur la corde. Finalement, il me racontait, il dit que c'était nuisant. Des fois, il s'accrochait dans ça. Ça fait qu'il allait directement près du canon pour tirer. Là. C'était plus efficace pour les autres. Là.
Moins pour les oreilles, mais plus pour...
Moins pour les oreilles, oui. Parce qu'il y avait, arrivé de la guerre des tympans. Là,
ah oui? Forêt, là. Après la prise de l'aéroport, il continue son...
C'est à Caen, oui. À Caen, puis après ça, ben, la grosse bataille où il a participé, c'est à Falaise. Falaise, la poche de Falaise, qui appelait. Parce que là, les Allemands, encore, ils s'avaient repliés, là. Les autres, leur capitaine, les autres, c'était Pierre Sévigny. Pierre Sévigny a gagné plusieurs décorations avec ce régiment-là. Il s'est fait blesser, bizarre. Il a perdu une jambe, il a perdu un œil. Puis il est devenu, après la guerre, le ministre de la Défense là, nationale du Canada. Et puis lui, c'était leur officier comme capitaine de repérer les endroits où il devait tirer. Puis des fois, il était proche des lignes allemandes. Là. Fait que c'est pour ça qu'il s'est fait blesser à deux occasions. Mais c'est la bataille de Falaise était vraiment une bataille très difficile. Là. À un moment donné, ils sont fait cerner. Il n'y avait presque plus de munitions. Et puis ils attendaient des renforts. Puis c'est là que l'armée américaine avait rentré en tous les cas pour prendre la relève dans le secteur où ils étaient, les autres. Là. Et puis il y a eu plusieurs morts. Là. Mais après ça, ben, c'est sûr qu'ils sont avancés. Ils sont battus aussi un peu en... en Belgique. Après ça, dans l'automne, ben, c'était à la Hollande, hein, en octobre 1944, c'était la libération de la Hollande. C'est les Canadiens qui ont entré les premiers pour libérer la Hollande à ce moment-là. Et ils ont été récompensés, par exemple, plusieurs années après la guerre. Le gouvernement hollandais, ils avaient décerné une médaille, ceux qui avaient libéré, là. Mais tant que mon frère l'avait reçu, il était déjà décédé, ça faisait plusieurs années. Mais les Hollandais ont toujours été reconnaissants, là, envers les Canadiens pour ça. Et là, en Hollande, au tout début de la bataille de Hollande, il s'est fait blesser. C'est qu'un char d'assaut a tiré sur le canon, démoli le canon qui était dessus. Ils sont tous morts, excepté deux. Deux qui ont survécu, mon frère bien autre. Et puis, c'était quand même assez spécial. Des fois, on dit, le monde est petit. Il y avait le canon voisin. C'était tous des gars de Gaspé sur le canon voisin. Je pense qu'il y était au moins trois. Il y avait Major Fournier, de Gaspé, qui était sur l'autre canon, que j'ai rencontré, puis c'est lui qui m'a raconté beaucoup plus d'événements de ce régiment-là dans les mois qui étaient ensemble. Alors lui, il souhaitait sur le canon numéro 2. Numéro 1, mon frère était sur le canon numéro 2. Pas tous les canons étaient numérotés. Et puis finalement, il s'avait aperçu, qu'il me racontait, là, qu'il y avait une grosse explosion. Fait que là, ils ont senti, ben là, le canon numéro 1, il s'est fait attaquer, mais il ne pouvait pas laisser les positions, les autres, parce qu'il était sur un barrage, parce qu'il y avait une attaque de char d'assaut allemand. Puis là, les Polonais essayaient de se débrouiller dans tout ça. Alors, ça a été quand même une bataille assez féroce. Et finalement, il y a un type qui est arrivé là, un sergent-major, avec son jeep, puis son chauffeur. Il était allé voir l'explosion. Et puis là, il s'est aperçu qu'il était presque tout mort. Il y en a un qui était étendu dans un champ, il était inconscient. Mon frère, lui, il était pris en dessous des débris des canons. Fait que lui puis son chauffeur, ben, ils ont essayé de le sortir de là. Finalement, ils ont réussi à le sortir. Et puis, mais c'est sûr, il était tout... C'est dans la nuit, à part de ça. Et puis, c'était là, il y avait une pluie battante toute la nuit. Alors, tant qu'il est sorti de là, c'est sûr qu'il était pas... Il était tout graissé, hein, puis il était blessé. Alors, il avait pris sa lampe de poche pour... Puis c'est là, après qu'ils l'ont sorti, il a essayé le jeep. Là, il s'est aperçu, le sergent-major, c'est un gars de Gaspé. Ça fait des fois, c'est pour ça qu'on dit que le monde est petit.
C'était le nom du sergent-major, est-ce que vous...
C'était un Leblanc de Gaspé. Il s'avait connu, il s'était à Gaspé, à l'école ensemble. Là, mais il s'avait rencontré dans une drôle d'occasion. Fait que les deux blessés ont été transportés, en tout cas, dans un temps de premiers soins, là, et... Il avait subi des éclats d'obus. Et puis, il y avait un éclat d'obus dans une main. Sa main était paralysée. C'était surtout... il y avait eu 55 éclats d'obus qui ont relevé sur lui, rendu à l'hôpital. Mais il avait été chanceux, c'est juste des petits éclats. Mais les autres, ils étaient tous décapités. Là.
Puis sa convalescence va durer combien de temps?
La convalescence n'a pas duré longtemps, parce que là, parce qu'il est rendu en Hollande à l'automne... 44, il avait besoin de tous les effectifs. Hein. Le personnel commençait à diminuer, rendu en Hollande, parce que la bataille de Falaise avait été dure pour eux autres. Il a été, je pense, 3-4 semaines, c'est tout, en convalescence. Fait qu'il a retourné de nouveau jusqu'à la fin de la guerre. Après ça, tant qu'ils ont rentré en Allemagne, là, il s'est fait blesser de nouveau encore. Fait que la même situation encore. C'est là que ses tympans d'oreille avaient été perforés. Mais là, c'était sur la fin de la guerre. La guerre a fini, je pense, 3-4 semaines après.
OK, on parle du mois de mars-avril 45.
Avril 45, ouais.
Puis à partir de ce moment-là, lui, il va être retiré du front ou ils vont...
Non, il a continué. Il a continué. Ça a pris... Il a été en convalescence encore un bout dans ce coin-là. Mais il a continué. Il a rentré en Allemagne là, pour l'invasion de l'Allemagne. Il est encore actif encore à ce moment-là.
Il y avait vraiment une érosion au niveau des forces canadiennes là, parce que les gens n'étaient pas retirés longtemps du combat. Là.
Ah non, on n'est pas... parce qu'il manquait de personnel. C'est ça, surtout des artilleurs spécialisés, parce que ces artilleurs-là avaient quand même un gros entraînement. Ils avaient besoin du monde d'expérience. Parce que c'était le côté de minutage aussi, souvent. Hein. Puis donc, du moment qu'ils recevaient un ordre, ben, c'est parce que le capitaine en question, lui, avait décelé dans un endroit précis pour tirer aussi. Alors, la guerre a fini. Puis, il est retourné au pays en septembre 1945.
Est-ce qu'il avait parlé d'aller participer à la guerre, à la campagne dans le Pacifique? Parce que certains, je sais que M. Lewis Sinnett, qui est parent avec vous, lui avait justement eu un... Après cette démobilisation, il a été question qu'il retourne vers le Pacifique. Mais la guerre a fini en... L'armistice, la victoire au Japon est au début de
septembre. Au mois d'août, hein? Non, lui, il savait pas. Non, je pense qu'il en avait eu assez. Là. Je crois pas qu'il était intéressé à aller au Japon. Quand même pas retourné tout de suite. La guerre a fini quand même le 8 mai 1945. Puis il est arrivé ici à Gaspé en septembre. C'est parce qu'il fallait aussi ramasser tous les canons. Puis il y avait quand même du nettoyage à faire en Allemagne.
Il y avait aussi toute l'occupation, parce qu'il y a des gens de Gaspé qui vont rester jusqu'en 1946.
Oui, beaucoup. Beaucoup de ces gens-là, c'était des conscrits aussi. Hein. Des gens qui ne savaient pas enrôler volontaires, ils n'ont pas participé tout de suite au combat. Ils sont arrivés un petit peu plus tard, puis c'était plus frais, ces soldats-là aussi, moins épuisés là, dans les batailles. Alors, les autres, ces autres qui s'occupaient un peu là, au tout début. Là. Mais après ça, il y a eu une armée permanente d'occupation là, pendant plusieurs années, en réalité.
Oui, parce que les troupes canadiennes vont être stationnées en Allemagne pendant... Des années.
Ah oui, j'ai connu des gens qui étaient avec moi dans l'armée de réserve, moi. Puis ils sont enrôlés, puis pour l'occupation en Allemagne, ils ont été là plusieurs années. Il y en a qui ont été là un, deux, trois ans, certains.
Vous m'avez déjà conté que votre frère Mathias avait un sac, il ramassait des souvenirs pour vous.
Ah oui, ça faisait tout le temps, il ramassait des souvenirs jusqu'à la fin de la bataille de Caen. Pas à Caen, à Falaise. Et puis, il mettait ça dans ce qu'on appelle un kit bag. Là. Puis là, il disait, ben, je voyais ramasser ça, des souvenirs, mais que j'arrive chez nous. Moi, j'étais quand même jeune. Là. Tant qu'il est parti pour la guerre, moi, j'avais 8 ans. Fait qu'on avait une grosse différence d'âge avec mes deux frères. Mais en réalité, j'avais une grosse différence d'âge. Ça fait qu'il prenait la peine de ramasser ça. Puis, des insignes, puis des soldats allemands, puis tout ça. Et puis, à un moment donné, ils ont eu, les Américains s'en allaient bombarder sur un certain terrain localisé. Et puis, ils ont fait une erreur. Ils ont fait une erreur parce que c'est que les soldats canadiens étaient déjà rendus près de cet endroit-là où ils devaient bombarder. Mais la consigne était, tant qu'ils allaient bombarder comme ça, c'est qu'ils fermaient les communications. Il y avait juste le Wing Commander qui appelait, que lui, il avait la communication, mais il ne pouvait pas communiquer avec les soldats à terre. La façon qu'ils opéraient, les autres, rendus à la destination où ils devaient lâcher le bombe, c'est le Wing Commander qui lâchait la première bombe. Puis en lâchant la première bombe, voilà, tout le reste suit. Puis là, il n'y avait plus aucune communication. Mais c'était les soldats canadiens qui étaient là. Ils étaient dans ce village-là, en réalité. Fait qu'ils sont fait bombarder. Et puis, il avait mis ce kit bag-là dans un trou. Tant que le bombardement a commencé, c'est qu'il est sorti de là pour essayer de se cacher dans un tranché plus grand, parce que là, les gens couraient un peu partout. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils voyaient que c'était des avions américains qui les bombardaient. Et puis, il y a une bombe qui a tombé directement dans le trou où est-ce qu'il avait ramassé les souvenirs. Enfin, il était chanceux que c'est juste les souvenirs qui ont disparu.
Mais vous n'avez pas eu ce qu'il récupérait. Puis non, ensuite, il a abandonné l'idée.
Ah non, il n'y avait plus courage de ramasser tout ça du nouveau. Enfin, j'ai perdu mes souvenirs.
Vous auriez une belle collection qui aurait pu servir ici à la base navale du Canada.
J'aurais aimé ça. Ah non, c'est sûr que la guerre, nous autres chez nous, on l'a connu, certains. Là. Puis c'était difficile aussi pour les parents. Hein? Difficile pour les autres qui étaient en combat, mais difficile pour les parents sans savoir où ils étaient et comment ils étaient. Là. C'est que je sais que ma mère avait pas de... attendait toujours une lettre après l'invasion. Et là, elle était pas mal certaine qu'il était à une invasion, mais on n'avait pas de... on n'avait pas aucune nouvelle. L'invasion a lieu en juin. Si je me rappelle, à ce moment-là, la malle venait par chemin de fer. Il était pacté à la malle dans la soirée. Tous les soirs, elle allait au bureau de poste voir s'il y avait une lettre. Puis, Je m'en rappelle, des fois, c'est moi qui allais ou c'est elle qui allait. Il n'y a jamais de lettre qui rentrait. Fait pour aller jusqu'au mois d'août. Fait que c'est sûr que c'est inquiétant pour eux autres. Puis il y avait la messagère du bureau de télégraphe qui marchait les rues à tous les jours, livrait des télégrammes à des parents que leur soit que leur enfant était mort au combat, blessé ou disparu. Fait qu'elle avait averti la messagère. Si jamais qu'il y a un message là, qui concerne Mathias, apporte-moi l'épaule, tu le donneras à mon mari. Elle voulait pas avoir le choc. Puis à chaque fois, je me rappelle qu'elle voyait la messagère passer en avant de la maison. Ça l'énervait à chaque fois.
Donc, le débarquement, c'est le 6 juin.
Ouais.
Juin passe, juillet, en août, il n'y avait pas encore eu aucune...
On ne savait pas encore où il était. On savait qu'il n'était plus en Angleterre, parce qu'on n'avait plus de nouvelles. On n'avait plus de lettres.
Est-ce qu'il y avait une correspondance?
Oh oui, tous les semaines, ma mère recevait une lettre, hein, qui était en Angleterre puis en Écosse. Mais là-bas, il ne pouvait plus. Là. Il ne pouvait plus acheminer comme il voulait, là.
On s'entend qu'il y avait deux éléments importants là-dedans. Le premier, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement le temps d'écrire, parce qu'il était sur le front.
C'est ça.
Puis deuxièmement, le développement des troupes canadiennes dans le nord de la France, on ne veut pas avoir nécessairement qu'il y ait beaucoup d'informations qui transigent entre les soldats, les militaires, vers, parce que les communications peuvent être interceptées par les Allemands.
Ben oui, c'est là, sûr.
Ils sont en action, puis ils sont très prêts. Là, le front bouge. Là, c'est sûr que les Alliés avancent de façon sûre dans les 336 jours qui vont suivre le 6 juin jusqu'à l'armistice. Il y a 336 jours entre les deux.
C'est ça.
La victoire, c'est le jour J plus 336. Mais la victoire est jamais assurée malgré qu'il y ait une avance, parce qu'on sait que les Allemands vont même effectuer la tentative des Ardennes de reprendre les positions avec très peu de succès. C'est sûr que les troupes allemandes sont... Si les troupes canadiennes sont épuisées, les troupes allemandes le sont aussi par...
Ben oui, c'est sûr. Puis partant de falaise, les Allemands se rendaient beaucoup, là. Il y avait des journées, là. Ils pouvaient avoir jusqu'à 2000 soldats allemands qui se rendaient, là, à la fin de la bataille de falaise, là, parce que les Alliés les ont rentrés dans le corps assez vite, là. Fait que, tous les pays étaient là, hein. L'Américain, Anglais, étaient tous là.
Puis en plus, c'est ça, les troupes allemandes, à fin 44, se battent encore contre les Canadiens dans le nord de l'Italie, contre le 22e régiment.
C'est ça.
Qu'on va reparler plus tard, parce qu'eux vont transiter par Marseille, puis quand les Américains vont prendre le relais pour finir la campagne d'Italie, mais ça va être les Canadiens vont aller rejoindre en Belgique les autres troupes, comme
c'est
le régiment
ça,
de la Chaudière.
Ouais, ouais.
Puis il y a aussi encore le front de l'Est, où ce que les Soviétiques puis les Allemands... Puis les Soviétiques avancent vitesse grand V, fait que les troupes d'élite sont peut-être trois quarts sur le front de l'Est, puis un quart au niveau du...
Ah non, c'est sûr qu'il n'y avait pas le temps d'écrire, parce que c'est ça qu'il avait dit aussi dans sa première lettre. Il s'excusait de ne pas pouvoir écrire avant, parce qu'il y avait l'épuisement aussi. Hein. Moins petit relais il y avait, les autres-là, il y avait des tranchées, ils se creusaient des tranchées aux côtés des canons, puis ils dormaient dans ça, là, tant qu'ils pouvaient. À un moment donné, mais il y avait une attaque qui surgissait. Là. C'était surtout la guerre des chars d'assaut. Hein. Entre les Polonais et les Allemands, puis les autres, les canons, ben, ils suivaient les Polonais.
C'est intéressant qu'il ait été jumelé avec les Polonais.
Ouais.
Parce que pour la petite histoire, les Polonais, après l'invasion de la Pologne, il va avoir les Polonais en exil vont rapidement créer des mini-régiments, on pourrait dire, stationnés en Angleterre, puis ils vont faire le même entraînement
que les
Canadiens ou que les Anglais être réaffectés, comme les troupes françaises aussi. Il va y avoir un peu de Français qui vont être stationnés en Angleterre, qui vont faire l'entraînement pour le...
Puis les autres aussi, il y avait un bon commandant, c'était un colonel, avec une grosse formation militaire, puis c'est sûr que c'était un régiment qui était efficace. Là. Ils ont aimé. À un moment donné, il y avait été question, je pense que c'était en Hollande, en voisin de Hollande, je crois que c'était Montgomery, ou je pense que c'est Montgomery, avait décidé de mettre le régiment polonais avec un autre régiment. Et puis le colonel, le pauvre lui, il dit, pas question. Il dit, on s'est battu ensemble depuis le début, mais on va aller jusqu'à la fin, parce que il dit, on est là pour ça. Puis il prenait pas de prisonniers, hein, polonais. Ça, c'était convenu. Il a dit, nous autres, on prend pas de prisonniers. Ça, c'est la consigne. Ils ont dit, faites ce que vous voulez, vous autres, mais nous autres, on les prend pas. Parce que les polonais avaient souffert aussi. Hein.
C'est sûr que c'est le premier pays qui avait... Parce que l'invasion de la Pologne... C'est ça, l'invasion de la Pologne avait eu lieu le 1er septembre 1939.
C'est ça.
Puis la Pologne avait été séparée par un pacte de non-agression avec l'Union soviétique en trois corps pour l'Allemagne et un corps pour le... pour l'Union soviétique.
Puis surtout à la bataille de Falaise, là, c'était l'armée des jeunesses hitlériennes qui embarquaient. Enfin, qui faisaient face à ça, eux autres aussi. Puis, s'il y avait consigne, eux autres, des Canadiens, à ce moment-là, c'était tout le long de la guerre de faire attention aux SS. Parce que les SS ne prenaient pas de prisonniers. Puis on tuait des prisonniers canadiens, ce groupe des SS-là. Il fallait pas prendre de chance, ils ont dit de pas prendre de chance si c'était des SS. Mais la jeunesse hitlérienne était aussi dangereuse, parce que c'était des jeunes, et puis ils ont été, ils ont à bas âge, entraînés à tuer. Ça fait que ça, c'était difficile. À un moment donné, il était une couple des autres, puis... Il me racontait, puis Sévigny, le commandant Sévigny, était avec les autres aussi, puis il y avait un soldat qui était dans le faussant, qui était déserté mort, uniforme, puis il avait l'air jeune. Fait que Sévigny avait été, puis sorti son identification, puis il avait 13 ans. Il était rendu là, avec la jeunesse hitlérienne, vraiment, là. C'était la relève, hein, du parti, là.
13 ans en 44, ça veut dire qu'il était... Il avait quoi? Il avait 8 ans au début de la guerre.
Fait qu'il n'avait pas connu d'autre chose que du lavage de cerveau de la part des nazis. Là.
C'est ça, les troupes, pour les auditeurs, les SS, c'était les troupes d'assaut. Parce qu'en Allemagne, il y avait la Wehrmacht.
C'est ça.
Qui était l'armée conventionnelle.
Régulière, oui.
Puis il y avait les SS, qui étaient, eux, des troupes de choc qui étaient... extra-organigramme au niveau... Il y avait le généraux, il y avait
les grades. C'est vraiment, vraiment distinct de Wehrmacht.
Puis la jeunesse hitlérienne, c'était vraiment, en très bas âge, des gens qui étaient dans une optique militaire de l'Allemagne nazie, presque en repensant à Sparte, que ces enfants-là étaient élevés qu'en fonction d'être des soldats.
En fonction des soldats, puis prendre la direction des SS. Les autres, c'était ça, là.
C'est ça, il y avait déjà au niveau militaire, puis au niveau des hauts gradés, il y avait une instruction militaire déjà. Vous pensez à l'école, mais là, l'école, c'est l'école militaire.
C'est juste ça. Ils pensaient juste ça, les autres, la vie militaire, il n'y avait pas d'autre. Il y avait une certaine instruction en travers de ça, mais encadrée par l'armée allemande. Là. Puis ça, ben, c'était dangereux, ces jeunes-là étaient zélés, là. Ils voulaient tuer, les autres, là. Ils étaient là pour ça.
Il y avait un endoctrinement qui était extrêmement fort parce que c'est les jeunesses hitlériennes qui vont aussi effectuer la défense de Berlin. Puis ils sont persuadés que l'ennemi ne prendra pas de prisonniers. Donc s'ils perdent, c'est la mort inexorable.
C'est ça.
Alors que dans la majorité des cas, les Alliés vont faire des quantités phénoménales.
Mais la plupart de cette armée régulière allemande. Il n'y avait pas toute la motivation de se battre non plus, là. Parce qu'ils ont été forcés à s'enrôler, c'est sûr. Mais il n'y avait pas toute la motivation, là. Il y avait des prisonniers, là. Ils étaient contents d'être prisonniers. Ils le disaient aussi, là. Ils disaient, enfin, là, on sort du joug de nazi, là. Ils le disaient, là.
Okay, c'est votre frère qui vous a parlé de ça?
Oui, c'est sûr qu'il était content.
Ben, pour eux, c'était la cinquième vers la sixième année de conflit.
C'est ça. Puis, ils n'étaient pas tous motivés à ça. C'était pas des nazis, c'était pas des SS. C'était pas de la Gestapo non plus. Tu avais la Gestapo aussi qui faisait un ravage d'une autre façon. Mais les soldats de la Wehrmacht, les autres, là, c'était n'importe qui, là. T'sais? N'importe quel citoyen. Là, qui... On voit dans les reportages aujourd'hui. C'est qu'il y en a encore qui vivent, là, puis on voit par leur témoignage, hein, c'était pas vraiment des combattants, mais ils étaient obligés de suivre Hitler. Là.
Puis il y avait ce qui se passait à la maison, parce que eux avaient des nouvelles quand même, les nouvelles alliées qu'ils pouvaient entendre, par la BBC à Londres.
C'est ça.
Que les villes, les bombardements, à partir de 1943-1944, les bombardements sur l'Allemagne, ça va être un feu roulant, là.
Ah oui, ah oui. Ça, c'est sûr qu'il y a eu des gros bombardements, puis à Londres, on a eu des bombardements aussi de la part des Allemands, là. Mon frère me racontait des fois, mais il y avait des ports, ces autres, pour aller à Londres. Et puis, il était pas chanceux, à chaque fois qu'il allait là, il y avait tout le temps un bombardement. Il fallait qu'il se ramasse dans le métro, puis... Fait que c'était pas... Mais même dans le camp d'entraînement où il s'entraînait, il y avait eu quelquefois des bombardements allemands.
Que, si loin que ça, en Écosse? Ouais.
Non, ça, c'est en Angleterre.
Okay, en Angleterre.
Ah, ouais, en campagne, là. Mm-hmm. Mais il y avait des bombardements de temps en temps. Fait qu'il avait quand même connu un peu, là, c'était quoi la guerre avant l'invasion, d'une certaine façon, tu sais.
Puis, est-ce qu'il vous a déjà parlé comment est-ce qu'il a vécu, justement, l'armistice, la fin de la Deuxième Guerre mondiale? C'était quoi le sentiment général au niveau de qu'est-ce qu'ils vont faire, autre que la réorganisation de leur matériel?
Ouais, après tout le démantèlement, c'est comme les autres, lui, c'est sûr, là, il leur donnait un mois de réflexion, hein? Tant qu'ils arrivaient dans leur milieu, dans leur famille, il leur donnait un mois de réflexion. Et puis, mais s'ils voulaient soit continuer à être dans leur main ou une décharge, il fallait qu'ils se rendent à Québec de toute façon au bout d'un mois. Puis c'est au bureau de recrutement à Québec qu'ils prenaient la décision. C'est quoi? Il y en a qui ont resté dans leur main, qui ont fait une carrière après ça. Et puis il y en a d'autres qui sont enrôlés pour... Mais pour le Japon, ils n'avaient pas tant que ça. C'était pas un gros pourcentage. Mais la plupart, ils voulaient retourner à la vie civile. Là, puis, mais ils n'étaient pas tellement bien encadrés. En réalité, ils leur donnaient le papier de décharge, puis là, maintenant, ben, trouve-toi un job. Nous autres, on t'en contrôle plus. Vous êtes plus à la discipline militaire, vous êtes libre. Fait que trouvez-vous un job. Mais là,
on vous donne votre dernière paye.
C'est ça.
On voudrait avoir notre uniforme?
Non, il laissait l'uniforme. Ah, ouais. Il laissait tout, moi, ouais, l'équipement. Ah oui.
OK, les casques?
Ah puis... oui, il laissait tout. Ouais. C'est moi qui avait hérité de ça. Là. Mon frère m'avait tout donné ça. Et puis, ah non, ça, il n'y a pas de ce côté-là. Mais ceux qui avaient des pensions, qui étaient blessés assez pour avoir des pensions, les autres étaient mieux encadrés. Mais mon frère, ça fait blesser deux fois, lui, mais pas assez pour avoir une pension. Et qui n'avaient pas d'handicap à cause de la guerre. Hein. Alors, c'était des blessures superficielles. C'est sûr qu'il y avait une main, il y avait une claude au but qu'ils ne l'ont jamais enlevée. Parce que s'il l'opérait, il avait peur que les doigts soient paralysés. Alors, ça, il a toujours vécu avec ça. Puis, il est tympan. Mais c'est pas assez pour avoir une pension. Là. Mon autre frère, lui, était pensionné. Lui, là, quasiment à 100%, lui. Lui, il était vraiment handicapé, lui. Ah non, c'est que... Puis c'était pas facile. Tu sais, il y avait pas... Il était pas encadré comme les soldats d'aujourd'hui aussi qui sont allés en Afghanistan, tout ça. Et ils ont quand même un suivi après, hein, des psychologues, tout ça. Mais ceux qui sont... Après la guerre 35-45, ils n'ont pas connu ça, là. À part des cas vraiment, vraiment sérieux, ils enfermaient dans les institutions. Là.
Et ceux qui avaient vécu des stress.
Oui, ce qu'ils appelaient le shell shock en anglais, là. Post-traumatique. Là. Les autres, il y en a qui étaient renfermés dans les hôpitaux psychiatriques pendant plusieurs années. Là.
Pour les auditeurs, ce que M. Sinnett appelle le shell shock, c'est l'exposition trop longue. Au bombardement
au
canon.
Ou un certain jour qui pouvait subir un choc plus violent, qui restait avec.
Les tirs d'artillerie.
C'était surtout ça, oui.
Les gens vont.
Première guerre, c'était la même chose. Ça.
Les gens vont être sous différents symptômes, ça va s'exprimer de façon différente, mais ouais. Le choc peut faire que les gens sont dans une espèce de immobiles, puis ils vont pas bouger, ou ils vont pleurer de façon constante.
C'est ça, puis qu'il y ait des crises, là, ouais.
C'est ça. Une espèce de stress dû justement à l'exposition, c'est quelque chose qui dépassait peut-être ce que la nature humaine est capable de supporter.
Mais je crois quand même que la plupart de ces militaires-là, un gros pourcentage, ceux qui ont vraiment été en action, parce que si ceux qui ont fait de l'invasion jusqu'à l'armistice, il y a presque un an, là, en action tous les jours. Là. Fait que ces gens-là, ils ont subi un traumatisme, veut pas, là. Peut-être pas sérieux, mais qui ont peut-être transporté ça tout le temps de vie, là, à certaines occasions, là, comme j'en ai connu, moi, qu'il y a des gens qui restaient quand même avec une certaine nervosité, là, mais pas assez pour les achaler, là, dans leur quotidien, mais à certaines occasions, ça pouvait arriver. Ah non, la guerre, c'est la guerre, hein? C'est pas ce qu'il y a plus beau, là.
Là, on a parlé de votre frère Mathias, qui lui a fait de la campagne, il a fait les 336 jours de...
C'est ça, au complet, ouais.
Puis, mais il y avait d'autres gens. Lui avait débarqué à Calais. Le premier débarquement, ça va être sur la plage de Juneau, qui va être la plage attitrée aux Canadiens. Il va avoir 5 déploiements militaires, puis il y en a un, qui ça va être les Canadiens français, dans le régiment de la Chaudière. Est-ce que vous avez eu la chance d'en connaître des gens qui ont participé au...
Oui. Le régiment des trois. Les trois qui sont enrôlés ensemble, les deux autres avec mon frère en 41. Et c'est sûr qu'ils sont tous enrôlés dans l'artillerie. Et ils étaient toujours dans l'artillerie, tous les trois ensemble, jusqu'au mois de... Je pense que c'était le mois d'août 1942. Et c'était en Angleterre. À un moment donné, les deux autres, là, les canons, ça le disait pas tellement, là... C'était très physique, les canons aussi. Hein. Ils ont dit, on va aller dans d'autres régiments. Soit qu'ils ont demandé d'être transférés dans d'autres régiments. Il y en a un, lui, il a été transféré d'un régiment, je pense, d'ingénieurs, je crois. Et puis l'autre, lui, il a opté pour le régiment de la Chaudière. Mais ces gens-là, c'est sûr, ils optaient pour différents régiments sans savoir que sorte de régiment que c'était non plus. Ils ne connaissaient pas, là. Comme la Chaudière, qui ont été dans les premiers Canadiens, vraiment, qui ont mis le pied sur le sol français. Ils l'ont eu dur, eux autres. Hein? Fait qu'ils n'étaient certainement pas au courant au départ c'était quoi le régiment de la Chaudière. Hein? Parce que moi, j'en ai connu un, celui-là, qui était avec mon frère et puis qui a opté pour le régiment de la Chaudière. C'était un nommé Ouellet de Gaspé. Laurent Ouellet. Laurent, c'était un ami de la famille avant la guerre. Ces jeunes-là se remontaient à la maison, je m'en rappelle. Moi, quand ils passaient des soirées à jouer aux cartes l'hiver, puis c'est tout un groupe, à peu près tous de même âge. Fait que finalement, ils sont remontés, ils sont envoyés. Presque 90% de ces jeunes-là sont envolés pour la guerre. Comme mon père disait toujours, il avait acheté un radio, à ce temps-là, un radio à batterie, et les batteries coûtaient cher. Il fallait jouer sur la radio seulement le soir. Puis il rouvrait sa radio tant que tous ces jeunes-là venaient jouer aux cartes. Puis là, à un moment donné, un an ou deux après, il n'en avait plus. Là. Il était tout parti pour la guerre. Puis il disait toujours, j'écoute mon radio tout seul. Afin que, en revenant, ça a nommé Ouellet-là. À l'invasion de Normandie, sa mère, son père est handicapé. Mais sa mère était très amie avec ma mère aussi. Elle venait souvent prendre un thé l'après-midi. Puis une journée, en tous les cas, elle est arrivée tout énervée. Elle dit, c'était l'invasion de Normandie. Elle dit, j'ai reçu un télégramme que Laurent est porté disparu. Fait que c'était dans les premiers jours d'invasion. Là. Finalement, elle a reçu un autre télégramme quelques semaines après qui l'avait retrouvé. Fait qu'il était correct.
C'est un concept quand même relativement spécial de partir du point que les parents reçoivent...
Ah oui, il y avait quand même une discussion entre les parents. Là. Les parents se rencontraient de ces gens-là. Là, puis ils demandaient, ben, as-tu eu des nouvelles, toi, un autre, as-tu eu... C'est comme l'autre soldat, c'était un Joseph de Gaspé, Philippe Joseph. Et puis le père, son père, lui, il était barbier. C'était un des grands chums de mon père, parce que tant qu'il avait arrivé à Gaspé pour ouvrir un atelier d'un salon de coiffure, il était pas marié, puis ma grand-mère gardait une maison de pension à l'époque. Après qu'il avait arrivé, je pense qu'il venait de Saint-Gaufroy. Il chambrait avec mon père. Fait qu'ils sont toujours venus de grands amis. Hein. Un soir, il avait arrivé. C'est dans le temps des fêtes. Je pense que c'est les fêtes 44. C'est ça. 43 plutôt. C'est fait 43. Fait qu'il est arrivé, il dit, Satoulet a dit, j'ai rencontré, il dit, la mère de Laurent Ouellette, a dit que, qu'ils ont toutes, que les soldats canadiens, ce BBC à Londres, il y avait des messages pour eux en temps des fêtes. Puis ça a l'air, ils disent qu'ils ont parlé de nos trois enfants, les trois qui ont ça va rouler ensemble. Puis mon père écoutait toujours le BBC, lui. Lui, le soir, là, écoutait sa radio tard le soir. Puis ça n'a pas donné que probablement, il était pas au courant de ça. Il dit, moi, je suis pas au courant. Ça fait que là, c'était quand même comique de les voir, les trois, d'essayer de savoir c'est quoi. C'est quoi qui s'avait passé? Finalement, ils ont éclairci la situation. Le seul nom qui avait été mentionné, c'était mon frère. C'est parce que c'était une fille, une Anglaise, parce qu'il se trouvait en Angleterre, qui souhaitait des vœux de Noël à BBC. Ça fait que ça avait éclairci la situation, en tous les cas. Les autres étaient très déçus qu'ils n'avaient pas parlé des deux autres. Mais en tous les cas, revenant à Laurent, c'est que Laurent, après, c'est sûr qu'ils sont... Les autres, ils ont fait une province, ces trois-là. Tant qu'ils sont enrôlés, les trois, ils ont été sur la plage de... On appelait ça la plage à ce moment-là du Bluff, là, qui est la promenade aujourd'hui ici, qui s'en va vers le musée. C'était une grande plage à l'époque. En 70, ils ont toutes défigurées. Et puis, ça va rencontrer là les trois. Puis là, c'est là qu'ils ont pris la décision de s'enrôler. Puis là, ils se sont dit, par exemple, même qu'on revient de la guerre, il faudra se rencontrer les trois à même place. Fait que finalement, c'est ça réalisé. Ils se sont rencontrés les trois dans la salle de billard. Puis là, ils ont dit, il faudra prendre une bière puis aller la voir sur la plage et puis parler un peu de ce qu'on a pas, parce qu'ils ne s'avaient pas vus pendant toute la guerre. Après, ils se sont séparés en Angleterre. Il n'y a jamais eu aucun contact entre les autres. Et puis finalement, j'ai demandé à mon frère, je lui ai dit, c'est quoi vous avez parlé? Il dit, on a parlé de toutes sortes d'affaires pour la guerre. Pas un des trois a parlé de la guerre. C'est quoi que ça avait passé? Où il était?
Donc, M. Ouellette, on ne saura pas pourquoi il avait été... Sa mère avait reçu un télégramme.
Il s'avait écarté. Ça avait, il y avait de la dispersion qui se faisait. Puis à un moment donné, il s'est dans une forêt, puis il s'avait écarté. Il s'avait fait prendre par des Allemands, puis il a réussi à s'échapper des Allemands. Des Allemands, ça fait qu'il n'a pas eu le temps d'aller dans un camp de concentration. Ça fait que c'est comme ça qu'il a retrouvé de nouveau, mais par d'autres un régiment, d'autres soldats d'un régiment.
OK, c'est un régiment connexe qui va le...
Ouais, qui
puis
va,
il va être rapatrié.
Il va être rapatrié dans son régiment de Chaudière après, jusqu'à la fin de la guerre, là, après ça. Là.
Donc c'est un peu comme l'histoire de M. Émilien Dufresne, de Pointe-Frégate, qui lui était aussi dans le régiment de la Chaudière, qui va faire le débarquement. Mais lui, il va être dans les troupes qui vont aller un peu trop loin, puis il, dans une contre-attaque allemande, il va être fait prisonnier. On va avoir la chance d'en parler beaucoup plus longtemps dans un épisode du podcast.
Mmh. Oh oui, c'est ça qui avait arrivé. Il y avait une dispersion à un moment donné, tu sais, puis surtout dans le bois, dans des forêts. Puis il s'écartait un peu de le régiment. Ça arrivait, ça avait arrivé souvent, ça. C'est ça qu'il me racontait après, moi, lui, Laurent. Fait que Laurent, après ça, lui, ils se sont rencontrés après la guerre. Ils sont venus tous les trois. Mais les deux autres n'ont pas resté à Gaspé. Il y en a un qui a pris le bord de l'Ontario. Puis je pense que Laurent, lui... Laurent a travaillé à Gaspé un an ou deux, peut-être. Je pense qu'il chauffait un camion pour la construction d'une route, là. Et après ça, il est parti pour Québec. Il était pendant des années à Québec. Et la seule fois que j'ai vu Laurent, la première fois que je l'ai vu après, moi-même, là, c'était quand mon père est décédé. Ça, là, il avait entendu parler de ça, puis il avait descendu de Québec. En même temps, il dit, je vais aller voir les gens de Gaspé. Ben, il avait arrivé à la maison, je m'en rappelle, pour voir ma mère, puis ensuite, par rapport au décès de mon père, là, ça, qu'il était toujours rassemblé à la maison, ces jeunes-là. Après ça, Laurent, je l'ai perdu de vue complètement. À un moment donné, j'ai rencontré un militaire qui voulait me voir, un nommé Isabelle. Il était à Gaspé. Fait que je l'ai rencontré au musée, et lui, c'était un type de Matane. Il voulait savoir si j'avais jamais entendu parler d'un jeune soldat qui s'appelait Johnny Adams.
Le monsieur Isabelle que vous parlez, son petit nom, est-ce que c'était Georges?
Georges Isabelle.
Il était natif de Capcha.
Oui, Capcha. Hein?
Puis il était dans la Chaudière lui aussi, puis il y avait le débarquement de Normandie.
C'est ça. Fait qu'il voulait savoir si je connaissais Johnny Adams. Ben, j'ai dit moi, j'ai dit oui, un peu. Mais j'ai dit moi, là, tant que la guerre de Floride, j'étais pas vieux, là. Tant que les soldats ont parti, je les connaissais pas toutes non plus, là. Je m'en rappelais pas toutes. Mais là, le nom de Johnny Adams m'a dit quelque chose à un moment donné, tant qu'il l'a mentionné. Je lui ai dit, c'était un petit homme, hein. Il dit oui, t'es pas grand. Fait que j'ai dit, je le crois. J'ai dit oui, il était ami avec un de mes frères, avec Léonard. Puis je me rappelle, il venait à la maison. Le souvenir que j'avais de lui, c'était qu'il avait travaillé, il y avait un petit restaurant où la brûlerie aujourd'hui, là, il y avait un restaurant. Le propriétaire était nommé Adams aussi, mais aucun lien de parenté, je le crois pas. Ça, tout là, il avait travaillé ce restaurant-là. Et puis, je m'en allais avec ma mère une journée sur le trottoir. Et puis, il faisait de la crème glacée. Il faisait de la crème glacée à la main. Puis, il m'avait appelé pour me donner un cornet de crème glacée. Ça, c'est le souvenir que j'avais de cet homme-là, le visage, tu sais, là. Après ça, il s'est enroulé dans leurs mains, puis on l'a disparu, là. Mais j'ai dit, pourquoi tu sais qu'il voulait savoir si je connaissais Johnny Adams? Il dit, il était dans le régiment de Chaudière avec moi. Puis il dit, lui, il chauffait un Brent Carrier. Moi, j'étais l'artilleur, il dit, sur Brent Carrier. Il était toujours trois ou quatre hommes, ça. C'était quatre, je crois. Et puis, il s'est fait tuer avec moi. Tant j'étais. Il dit, on a vu une mission de brûler des billes de foin, parce qu'il y avait des Allemands qui se cachaient dans ça. Puis là, ils se sont dit, ben là, avec un lance-flamme, vous allez avoir comme pour mission d'aller essayer de loger ces Allemands-là. Mais ils ont passé sur une mine. Alors, le blind carrier a explosé. Johnny était le chauffeur, puis l'autre côté de lui, les autres sont tous morts, à part de lui, Isabelle. Isabelle, ça n'a réchappé.
Oui, il était blessé, mais il était en convalescence longtemps.
Ouais.
Il a son histoire a été... récupéré. Il y a quand même beaucoup de données sur M. Isabelle.
Oh, Georges Isabelle, ouais. un grand bonhomme.
Ah, j'ai eu la chance de le rencontrer.
Ouais, il était assez Joseph.
C'était un monsieur, puis je le rencontre dans mon cadre professionnel, puis là, on commence à parler. C'était en 2000...
Ben, t'étais au musée, probablement.
Ouais.
Mais c'est là que je l'ai rencontré au musée. Ouais.
C'est ça, c'était en 2011, je crois.
Ouais, c'est autour de
2011.
Ça. Ouais.
Puis là, on commence à parler. Ouais. Il dit, tu t'intéresses-tu à ça, gars? J'ai dit, oui, effectivement, c'est un sujet qui me plaît. Il dit, moi, je l'ai faite, la Deuxième Guerre mondiale. Je le regarde, puis je dis, mais vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir fait la Deuxième Guerre mondiale. J'ai 83 ans.
Ah non, il était dans les âges. Il est décédé il n'y a pas longtemps. Là.
C'est ça, mais il y avait... Quand moi, je l'ai rencontré, il avait l'air d'avoir fin 60, début 70, et qu'il aurait donné beaucoup trop jeune pour... Mais non, il avait...
Ah non, puis il avait l'air... Il était en forme, hein, le bonhomme.
Ah, il était
très en forme. Puis c'était un vrai militaire. Fait qu'il voulait rencontrer quelqu'un à Gaspé qui l'a reconnu, parce que vu qu'il était... C'était son confrère, il était avec lui, là. Plusieurs mois. Il m'a envoyé après ça une photo de la pierre tombale de Johnny. Johnny Adams, vu que je l'avais connu. Ma mère vivait encore à l'époque. J'avais dit ça à ma mère. Ma mère, ça rappelait très bien de lui. Donc, il venait à la maison avec mon frère. Fait que.
Pour les auditeurs, M. Sinette, je sais qu'il y en a eu, pour la petite histoire, il y en a eu beaucoup à Gaspé. C'est quoi un brand carrier?
Un brand carrier, ça, c'était un véhicule à chenilles, comme un petit char d'assaut, mais ouvert. Pas de toit ou quoi que ce soit. T'avais une mitrailleuse en arrière. Il était quatre, en réalité, sur un Brent Carrier. C'était pour transporter des munitions ou transporter des armes. C'est pour ça qu'il appelait Brent Carrier.
Là. On a survécu à Gaspé, parce qu'il y en avait... Moi, je me souviens d'avoir vu une photo pas loin de ce qui est l'ancien Ashin, la maison Wacom aujourd'hui.
Ouais.
Dans la cour arrière, il y avait une photo, c'est pas vous qui avez cette photo-là, avec trois Brent Carrier.
Oui, il y avait un Brent Carrier, mais il y avait un short d'assaut aussi dans ça. Un petit short d'assaut dans ça. J'étais dans l'armée de réserve dans ce temps-là, quand on avait ça, moi. Parce qu'on avait déraillé avec ça. Un soir, on s'entraînait dans les champs, on avait déraillé un véhicule huité avec ça. C'est pour ça que je m'en rappelle. Mais celui-là, c'était un short d'assaut, mais il y avait un Brent Carrier aussi.
Ouais, qui servait finalement à l'entraînement des troupes qui étaient stationnées à Gaspé, ouais. Et ou pour les déplacements des militaires.
C'est ça, ouais. C'était ce qu'on appelle des. En anglais, des schemes, là, des mises en situation. Là. On utilisait ça pour ça.
Et on sait qu'il y a eu beaucoup d'anglophones de Gaspé qui avaient joint le Royal Rifle of Canada.
Ouais. Bon,
d'ailleurs, on a fait deux épisodes sur le sujet. Ouais. Eux étaient stationnés à Hong Kong. Il doit sûrement en avoir quand même des anglophones qui ont fait la campagne européenne qui était originaire de Gaspé.
Oh oui, il y en avait beaucoup. Mais comme en revenant, on parlait de Laurent Ouellet. Fait que suite à ça, moi, j'avais perdu Laurent de vue depuis des années. Je savais pas où il était. Justement, Isabelle, il me dit ça, qu'il était dans le régiment chez eux. J'ai demandé s'il avait connu Laurent Ouellet. Il dit non. Les gens se connaissent pas tous d'un régiment, là, hein, plusieurs hommes. Là. Mais je savais que Johnny Adams, il faisait partie du groupe là, de Gaspé qui se tenait ensemble, dans Laurent et tous les autres. Enfin, j'étais au centre d'achat, puis à un moment donné, je vois passer une des nièces de Laurent Ouellet. Fait que je l'interpelle, je lui dis, Laurent Ouellet, ça vit-tu encore, ça, quelque part? Je pense que c'est ton oncle. Elle dit oui. Elle dit, il vit encore. Elle dit, il est dans un foyer à Rimouski. Ça fait qu'avec sa fille, il demeure aussi à Rimouski, mais dans un foyer, là. Puis je lui dis, as-tu au moyen d'avoir son numéro de téléphone? Je dis, j'envoie ça l'appeler. Ça fait qu'elle m'a rappelé le soir, elle m'a dit son numéro de téléphone. Fait que je l'appelle. Mais c'était pour lui parler, justement, de Johnny Adam. Il était dans le même régiment, tu sais, la chaudière. Puis là, le type, il me répond, j'ai dit, j'aimerais parler à Laurent Ouellet. Il dit, qui veut parler à Laurent Ouellet? T'es avec une voix, tu sais, là. Là, je me présente, j'ai dit, tu te rappelles peut-être pas de moi, là, mais j'ai dit, je suis le frère Mathias, je suis... Alors, c'est toi, le petit tannant, il dit, là, qui était tant qu'on jouait au quatre, puis t'es toujours dans les chambres, tout le monde. Là, il s'en rappelait de cette façon-là, t'sais. En fait, là, j'ai demandé s'il était au courant pour Johnny Adam. Dit, oui, Johnny Adam, il dit, oui, il s'est fait tuer, genre là, ça, il était au courant, là. Il dit, oui, il dit, je l'ai rencontré une fois, il dit seulement. Et lui, il était sur un Brent Carrier, puis du moins, il dit, il était à pied. Puis on l'a rencontré en tous les cas dans un village, il dit, là. Mais c'est la seule chose, mais il savait qu'il était mort. Hein. Puis là, après ça, il presque tous les mois, ce type-là m'appelait. Hein. Là, il voulait en savoir plus sur Gaspé. C'est qu'est-ce que Gaspé avait devenu pendant toutes ces dernières années-là. Et puis, sur certains personnages qui vivent encore. Hein. Tous les mois, je recevais un téléphone de lui. Puis c'était plaisant, tu sais, le type. Il aimait jaser beaucoup. Puis c'est là qu'il m'avait raconté son histoire, là, qui était disparue. Là, hein. Fait qu'à là, chaque fois qu'il m'appelait, mais c'est sûr, les gens qu'il avait connus, ils commençaient à vieillir, ça décédait. Puis là, j'ai dit, ben lui, il est décédé. Puis, tu sais, à peu près une couple d'années, là. Il dit, sais-tu, il dit, là, il n'y en reste plus un. Il dit, mon nom, je reste plus sur tout le monde. De la façon dont tu me dis ça. Enfin, je devais toujours aller le voir. Puis finalement, ça n'a jamais donné. Puis on s'a correspondu de même là, pendant une affaire de 4-5 ans. Sans jamais se voir, il m'a envoyé des photos. Et puis la différence entre l'évolution, il avait changé aussi. Il avait vieilli. Hein. Un Noël, ça, j'avais été chez mes enfants à Montréal. Puis quand j'arrivais, il y avait un message sur mon répondeur. Enfin, que c'était une femme. Fait que j'ai rappelé, puis cette femme-là, je lui ai dit, il y a un message. Elle a dit oui, elle a dit, c'est pour vous informer. Elle a dit que mon père est décédé il y a 2 semaines. Puis, étant malade, elle a dit, puis il m'avait demandé de vous appeler, là, si jamais il est décédé, pour m'avertir, parce qu'il n'y avait pas aucun parent d'autre. Gaspé, non, personne ne connaissait. Mais c'était quand même spécial, le lien qui avait été gardé, tu sais.
C'est comme si le lien, ben, en fait, vous avez connu, vous avez déjà vu ici, il y avait souvenir de vous, mais il y avait aussi le lien avec votre frère qui ben est oui, extrêmement parce... fort. Puis ensuite, ouais. au décès de votre frère, s'il avait passé le lien finalement qui était sur votre frère sur vous, parce que vous étiez comme un lien avec cet épisode-là, vraiment
marquant. Parce que mon frère,
distance.
À ce moment-là, mon frère était déjà décédé. Il faisait plusieurs années, mais il est décédé jeune. Là. Il est décédé à 57 ans, lui-là. Là. Mais lui, il est décédé quand même d'un 90 ans. Là. C'était autour de ça, là, Laurent. Ce qu'il me disait, là, qu'il vieillissait. Puis... oh non, il y avait plusieurs de Gaspé, c'est sûr que...
Mais c'est... Quand je vous ai demandé pour les anglophones, mais j'ai déjà, pour les auditeurs, dans les épisodes subséquents, on parle de la famille Mullen avec Tom Hayden, puis oui, eux étaient plusieurs qui avaient été à peu près sur tous les fronts de la planète.
C'est ça, ouais.
De Hong Kong avec la campagne d'Italie.
Je pense que Mullen, je pense, lui, chauffait un camion en invasion.
Il va être de l'opération Market Garden, ouais. Dont on parlera aussi dans les...
Oh non, c'est sûr qu'il y en avait plusieurs d'autres, mon Dieu, de Gaspé. Là, ça ne vient pas tout à ma mémoire tout d'un coup, mais j'en ai connu plusieurs. J'en ai connu plusieurs. Beaucoup plus après la guerre, parce que la guerre a fini en 45, puis en 1950, moi, je me suis enrôlé dans l'armée de réserve. Puis il y a beaucoup de ces gens-là qui sont enrôlés dans l'armée de réserve. Puis, j'ai côtoyé beaucoup là, dans l'armée de réserve. Là. Fait que j'étais avec les autres dans les entraînements, tout ça. Fait que, tant qu'on allait à Petawawa pour l'entraînement, là, il y avait un ami Joe Eden, lui. Il était sur les pilotes en chars d'assaut. Lui.
Il était natif de quel endroit?
De Wakeham. Et Eden, Farran avec...
Tu sais, il y avait peu de tankistes durant la Deuxième Guerre mondiale chez les Gaspésiens. Ah, il y a monsieur Albert Sinet.
Ouais, on disait toujours Albert parce qu'il C'était bizarre, nous autres. On était quand même assez amis, nous deux. Puis on parlait jamais français. On parlait toujours anglais. Parce que sa mère, c'était une Britannique. Hein? Père s'avait marié à la Première Guerre en Angleterre. Puis lui, s'est marié aussi en Angleterre.
C'est une tradition familiale, se marier en Angleterre pour ces gens-là.
Oui, puis son père, c'était bizarre, ça, dans deux guerres différentes. Lui, il m'a raconté aussi qu'il y avait de Johnny Adams, qu'il avait croisé Johnny Adams aussi. Même si c'était pas dans le même régiment, parce que lui, était un fusilier Mont-Royal. Mais ça avait croisé à quelque part. Il m'avait dit ça.
Oui, parce que M. Albert Sinnott va être jusqu'à la libération, lui aussi.
Ouais. Pour faire avec les fusiliers Mont-Royal. Parce qu'il y avait deux sections de fusiliers Mont-Royal. Il y en avait un régiment à Dieppe, fusiliers Mont-Royal. Mais lui, il était dans une autre vague, là, un autre régiment, là, de fusiliers Mont-Royal. Mais c'est des gens qui ont connu l'action. Hein. C'est un régiment d'infanterie assez dur, là. Les autres, c'était vider les maisons tant qu'ils rentraient dans les villages. Là. Fait que ça a l'air que c'était pas trop facile non plus. Là. Fait que si tous ces gens-là de Gaspé, qui, de différents régiments, différentes batailles, auraient pu compter leur histoire, ça aurait été intéressant. Mais ils voulaient pas parler. Moi, mon frère me racontait pas grand-chose. Il pouvait pas savoir beaucoup. On les questionnait, c'était oui puis non. Puis on voyait, ils voulaient pas en parler. C'est ça la question. Moi, j'en ai appris beaucoup plus sur mon frère, en réalité, dans cette période-là de Magella Fournier, qui était avec lui sur l'autre canon d'artillerie. Puis j'avais travaillé 4 ans avec Magella, à la SAQ. Il n'a jamais parlé de la guerre. Il était pareil que mon frère, il n'en parlait pas. Il ne parlait jamais. Des fois, je posais des questions, je n'avais pas de réponse. Plus que ça. Puis il était dans l'armée de réserve, parce qu'on était ensemble dans l'armée de réserve aussi. Il était sur les canons-là. Et puis, après qu'il a pris sa retraite, quelques années après, une journée, je l'ai rencontré à l'épicerie. Il dit, j'aimerais terriblement dit qu'on se rencontre et qu'on jase. Il dit, depuis que j'ai pris ma retraite, je ne te vois plus. Moi, j'avais travaillé quand même 4 ans avec lui. Bon, j'ai dit, à un moment donné, mais j'ai le temps, là, je vais te lâcher un coup de téléphone, je vais aller te voir. Fait que j'ai oublié ça. Fait qu'un soir, il m'appelle, il dit, finalement, tu n'es pas venu me voir. Il dit, j'aimerais ça, il dit, qu'on jase. On aurait des choses à te raconter. Puis, finalement, j'ai dit, ouais, tiens, demain, j'ai dit, j'y vais, c'est chez vous. Fait que j'ai jasé avec lui un peu. Et lui, il m'en a appris beaucoup plus sur l'époque de mon frère dans ce régiment-là que mon frère m'a raconté. Là. Des différentes anecdotes aussi. C'est quand ils ont arrivé, ils ont fait de l'invasion, il dit, c'était, les autres, il y avait juste la carabine, les canons, ça, c'était dans un autre péniche. Un facteur qui a débarqué sur la plage. Là, ils ont dit, on va essayer. Là, ils se mettaient à courir. Et puis, finalement, en tous les cas, la consigne était, si tu vois un trou à quelque part, ben, si tu vois, il y avait quand même des bombardements. Fait qu'ils ont sauté, il y avait un trou, ils ont sauté tous les deux dans le trou. Et puis là, ils sont aperçus, rendus là, que c'était un port à cochons. Fait qu'ils étaient pris avec les cochons. Puis là, ils sont aperçus, finalement, ils ont pris un vrai. Ils ont entendu des voix, puis c'était des Allemands qui étaient tout près des autres. Ils attendaient à converser, puis là, ils ont dit, moi, on parle plus. Là, là nous autres, ici, là, on ne sait pas ce qui peut arriver. Ça fait qu'ils ont passé la nuit là. Enfin, finalement, en tous les cas, les Allemands, ils n'ont pas aperçu. Mais c'est tout proche, ils attendaient à parler.
C'est intéressant, la proximité que ça peut apporter comme ça.
Ouais.
Justement, Mme Diane me contait que son père avait des missions d'entrer dans des maisons. Puis dans la période de Noël, presque la journée de Noël, il avait rentré dans une maison, il était caché au sous-sol. Puis les Allemands ont repris le haut de la maison sans la fouiller au complet. Peut-être parce que c'était l'esprit des fêtes. Peut-être aussi que la motivation de tout fouiller était comment ça a diminué pas mal chez les Allemands. Puis M. Albert Sinnott disait il chantait les mêmes chansons que nous.
Ah oui,
c'est à Noël. Les chansons traditionnelles allemandes ressemblent beaucoup
c'est
en allemand. Donc, M. Fournier, dans ce moment-là, vous rencontre. Puis,
Là, il me racontait bien des choses, tu sais, que ça va passer. Puis, il me racontait aussi qu'à un moment donné, il dit, c'était, je pense, dans le coin, c'était en Hollande. Parce que les Hollandais avaient souffert de la faim, hein, beaucoup. Finalement, ils ont y avait leur ration. Puis, ils avaient rentré dans une maison pour manger. Fait que, comme il dit, ils ne demandaient pas la permission. Là, ils ont pris leur ration. Puis, il y a 3 des autres. Fait qu'ils ont rentré dans cette maison-là. Puis, il y avait une famille. Là. Il y avait un homme, sa femme, puis 2 enfants. Fait que, il n'a pas demandé la permission. Il dit, on rentrait, il voulait se mettre à l'abri. Il faisait mauvais en plus de ça, parce qu'en Hollande, c'est l'automne puis l'hiver. Là. Mais là, il voyait ces gens-là, les regardant terriblement manger leur ration. Ça fait qu'ils ont demandé. Ils ont dit, voulez-vous avoir quelque chose? On peut vous donner quelque chose à manger. Ils ont venu à la serre. Ils n'avaient pas mangé, ça faisait 4 jours. Toute la famille. Fait qu'ils ont tout donné leur ration. Ils nous ont dit, on va essayer d'en avoir d'autres à un moment donné. Là, les camions passent. Hein, mais ça faisait pitié de voir ces gens-là de la façon qu'ils ont sauté sur leur ration. C'était pas croyable.
Mais la Hollande vivait l'occupation, c'est ça, depuis l'invasion en 1940.
C'est ça. Ouais.
Donc c'est ça, il y avait la période allemande, mais là, le retrait allemand, c'est sûr que tant que l'occupation allemande était là, il y avait quand même une vie qui s'organisait. Mais là, les Allemands, en reculant sur tous les fronts, eux aussi manquaient d'à peu près tout. Parce qu'il y a des soldats canadiens, c'est répertorié, qui vont être affectés directement au ravitaillement des populations civiles durant justement les mois de novembre, décembre et janvier 44 à 45. Ce qui confirme ce que vous avez mentionné.
Oui, puis ce qui est arrivé dans le temps des fêtes, ils sont fait cerner, là, les Allemands, en l'an. Fait qu'ils étaient mal pris. Dans le coin de Bastogne, là, ils étaient vraiment mal en point. Fait qu'il y avait presque plus rien à manger pour certains régiments. Les autres étaient moins pires. Les autres, il y avait encore une réserve. Mais il y en avait, là, les régiments d'infanterie, il n'y en avait plus. Là. Puis Albert, justement, était dans ce groupe-là, lui, qui était pris avec ça. Il m'avait raconté ça déjà. Et puis finalement, là les avions, on ne pouvait pas les envoyer de nourriture. Il faisait mauvais tout le temps. La visibilité n'était pas bonne. Fait que finalement, en tous les cas, tout le jour de Noël, jusqu'au jour de l'an, il était cerné avec presque rien à manger. C'était pas... Puis la Hollande, les autres même, il n'y avait pas de peuple. Tant qu'ils ont libéré la Hollande, tant qu'ils ont rentré à Apeldoorn, les Allemands, les Hollandais les adoraient. Ils adoraient les soldats canadiens. C'était pas possible. Hein. On voit des films de ça. Ça a été filmé, ça. Ils sautaient d'un camion, puis je me rappelle, mon frère me racontait qu'à un moment donné, le camion avait ralenti dans la rue, puis deux, trois petites filles sont arrivées avec une photo. Et puis là, il regardait, puis mon frère, lui, monsieur, il avait une petite moustache. Hein? Là, il trouvait qu'il ressemblait à l'acteur Errol Flynn. Puis il y avait une photo d'Errol Flynn. Là, il disait, c'est lui. il voulait envahir le camion, il voulait embarquer dans le camion. C'était assez spécial. C'est pour ça qu'ils ont toujours été reconnaissants. Hein? J'ai correspondu l'année dernière, ça, avec un groupe de Hollandais, une famille, que la femme en question, son père avait été torpillé ici à Cap-des-Rosiers, sous-marin allemand, dans un bateau hollandais. Là. Et puis, elle l'avait pas connu, son père, parce que sa mère était enceinte d'elle quand son père s'est fait tuer. Puis ça faisait des années qu'il faisait des recherches, en tous les cas, autour de quelle façon, s'il y avait eu une récupération de corps ou quoi que ce soit. Et puis, finalement, non, il est vraiment décédé là, à bord du navire. Là. Il était dans les compartiments des machines, ça fait que c'est sûr qu'il ne pouvait pas s'en réchapper. Mais il devait venir à Gaspé cet été, là, lors du 75e anniversaire, pour déposer une couronne à la mer, hein, pour toute la famille, en tous les cas. Fait qu'il avait réservé tout pour 3 jours, puis le COVID, là, 19, là, ils n'ont pas été capables, là, les avions ont arrêté, puis il était tellement déçu, ces gens-là.
Oui, parce que vous m'aviez parlé avant le début de la pandémie, puis on les attendait.
Ils avaient réservé leur hôtel, tout, puis les bateaux pour apporter. J'avais tout organisé ça pour les autres, là, autant que j'ai pu. Ça. En même temps, ils voulaient savoir s'il y avait des... Parce qu'il y a eu des corps qui ont été récupérés, mais pas tous, non. Les autres, non. Je me suis informé à Cap-de-Rosiers, des gens là-bas. Il y avait juste des débris qui atterrissaient sur la plage. Il n'y avait pas de corps. Là.
Bon, ben, monsieur Fabien Sinette, je vous remercie des millions de fois pour votre temps. Puis le fait que, avec tant de volontarisme, vous êtes toujours prêt à partager.
Ça fait plaisir de partager l'histoire. Ça fait partie de notre histoire. L'histoire de la guerre fait partie de l'histoire de Gaspé. Là.
Définitivement, avec le nombre de gens qui se sont envolés.
Ben oui, c'est ça. Puis beaucoup qui se sont fait tuer aussi. Ils n'ont pas tous revenu. Là. Comme la première guerre, ça, ils n'ont pas tous revenu non plus. Là. Tu sais, la Grenadier Guard là, qui avait été... Il est venu faire du recrutement, c'est dans 1915. Là, il y avait beaucoup de Gaspésiens. Mais si tu regardes ceux qui sont décédés de ce régiment-là, tu vas sur le cénotaphe, les noms sont tous là. Pas croyable, ça. Une grosse partie des autres.
Que... Il y a quelque chose dans l'ADN gaspésien. Et malgré qu'il n'y avait aucun patrimoine militaire, militaire. Depuis la guerre de 1812, qui n'avait pas tellement touché, n'avait pas du tout touché la Gaspésie. Ça avait été le grand accalmie. Puis là, la première, même la guerre des Boers.
Il y a une couple de Gaspés qui ont été à la guerre des Boers, mais pas plus que deux, je le crois pas toujours. J'ai pas pu trouver, j'ai fait des recherches, tu sais un peu, j'en ai trouvé deux. Qui ont pu avoir fait la guerre.
Avez-vous vu le nom de M. Horace Gall?
À la guerre des Boers? Non, non. J'ai appris ça tant tu l'as. Ça, non, je ne le savais pas. Probablement qu'il restait peut-être pas à Gaspé non plus.
Il a vécu jusqu'à 7 ans.
C'est
il est né à Douglastown, puis à 7 ans, il est parti pour Ottawa.
C'est ça. Fait qu'il était plus reconnu comme quelqu'un de Gaspé. C'est ça.
Alors, je vous remercie encore une fois,
M. Ça fait plaisir. Fait qu'à la prochaine.
Merci.
La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale est une production de Radio Gaspésie avec le soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire. À la recherche et à l'animation, Félix Fournier et son invité, Fabien Sinette. À la réalisation et à l'animation, Émilie Gagné. Un merci particulier aux historiens et passionnés d'histoire, Fabien Sinette et Tom Eden. Merci aux familles, proches et descendants de ceux et celles qui ont participé à l'effort de guerre pour leur témoignage. Pour plus d'épisodes et d'informations, visitez le radiogaspésie.ca dans la section « Podcast ».